Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tomba à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
À Noël, nous avons contemplé l'enfant Dieu. L'enfant Dieu réservé au peuple d'Israël. L'enfant Dieu presque caché au monde. Il est né dans une crèche, couché dans une mangeoire, et ce sont les bergers qui représentent le pauvre peuple de Dieu, le peuple des humbles, qui viennent l'adorer. L'ange leur a annoncé une grande joie pour tout le peuple. Et la fête de l'Épiphanie, c'est le monde entier, les nations représentées par les mages, qui viennent se prosterner devant Dieu, qui viennent se prosterner devant le Verbe fait chair, devant le Fils de Dieu. Toutes les nations le connaîtront. Jérusalem, réjouis-toi. Réjouis-toi et resplendis, car elle est venue ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et toutes les nations viendront. Les chameaux, les troupeaux viendront et se prosterneront devant toi. Noël et l'Épiphanie, les deux tenants de la même réalité. Cette réalité, c'est que Dieu est venu parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Le Verbe éternel, Fils de Dieu, s'est fait chair et il s'est manifesté. D'abord au peuple d'Israël, à qui le Messie avait été promis depuis des siècles, puis au monde et à toutes les nations païennes qui ne connaissaient pas Dieu et qui le découvrent à travers cet enfant. Remarquons d'abord, et cet itinéraire spirituel des mages est extraordinaire et très instructif. Remarquons d'abord combien les mages sont assoiffés de vérité et cherchent. Ils cherchent un signe dans les astres, c'est leur métier. Ils connaissent bien le mouvement des étoiles et ils y cherchent le sens de la vie. Ils y cherchent le sens des événements, le sens du monde, le sens de l'existence. Ils sont païens, c'est-à-dire ils ne connaissent pas encore Dieu, mais ils recherchent quelque chose de la vérité. Ils recherchent quelque chose qui puisse rendre compte de la réalité, rendre compte de la réalité de la vie. Ils cherchent quelque chose qui est quelque chose ou quelqu'un qui soit au-delà de l'humanité et qui puisse donner une lumière, porter une lumière définitive sur la réalité qu'ils vivent. Le monde est inexplicable. La nature, la création, l'univers sont inexplicables tant qu'on ne connaît pas Dieu, tant qu'on n'a pas découvert l'origine de toute chose. Par lui, tout a été fait, disait le prologue de Saint Jean le jour de Noël. Par lui, le Verbe fait chair. Par lui, tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est le Verbe de Dieu qui manifeste le Seigneur, qui manifeste la paternité de Dieu, qui manifeste l'amour de Dieu. Et l'homme ne sera jamais tranquille tant qu'il n'a pas découvert cette réalité de Dieu. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, disait saint Augustin. Les mages cherchent. Contrairement à tant de personnes, tant de nos contemporains qui ne cherchent pas, qui ne cherchent plus, installés dans un confort factice, installés dans une culture que notre pape François appelle la culture du déchet, la culture du provisoire, la culture de l'artificiel. Ils croient pouvoir vivre ainsi, mais les guerres, les divisions, les drames de notre monde sont autant de questions impossibles à résoudre. Quel est le mystère du mal? Quel est le mystère du bien au milieu du mal? Est-ce que le mal finira par l'emporter? Quel est le mystère de la vie et de la mort? Qui répondra à l'homme qui cherche une signification à tout cela? Est-ce que donc tout serait absurde? Est-ce que je me voile la face pour ne pas voir parce que je suis sûr de ne pas trouver? Ou est-ce que je cherche, au-delà de tout, à découvrir qui est à l'origine de tout cela? Les mages cherchent, mais ils se mettent en route. Il y a aujourd'hui des intellectuels qui voudraient bien chercher, mais qui ne sont pas prêts à se mettre en route, qui ne sont pas prêts à changer de vie, qui ne sont pas prêts à explorer en vérité le monde. Les mages se mettent en route et c'est fascinant, ils emportent tout ce qu'il faut pour se prosterner devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent ni où il est, ni où il est né, ni quand il est né exactement. Les mages partent, non pas à l'aveuglette, ils suivent l'étoile qu'ils ont découverte, mais sans savoir du tout où cette étoile les mènerait. Ils ont emporté avec eux tout ce qu'il faut pour offrir leurs hommages à celui qu'ils découvriraient. Autrement dit, ils sont prêts à remettre leur vie entre les mains de celui qu'ils cherchent. Est-ce que je suis prêt à remettre ma vie entre les mains de Dieu? Est-ce que je suis prêt à tout lâcher pour chercher le seul qui puisse donner un sens à mon existence? Est-ce que je suis tellement attaché au bien de ce monde? Est-ce que je suis tellement attaché à ma richesse? Est-ce que je suis tellement attaché à moi que je ne pourrai jamais trouver Dieu parce que je cherche intellectuellement quelqu'un devant qui je n'ai pas l'intention de me prosterner? Je ne pourrai le découvrir que si j'ai l'intention de me prosterner. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Mets-toi à genoux, adore-le. Mais je ne le connais pas, justement. Mets-toi à genoux, tu le découvriras. Est-ce qu'il existe? Mets-toi à genoux, adore-le. Tu découvriras combien il est ton Père, combien il t'aime. Les mages sont conduits à Jérusalem, parce que de fait c'est Jérusalem qui doit éclairer les nations. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu depuis l'origine, depuis Abraham. Ce peuple a été choisi par Dieu pour être dans les nations la lumière qui éclairerait, la lumière qui manifesterait la présence de Dieu au monde. Les mages viennent à Jérusalem et interrogent ceux qui devraient savoir, ceux qui devraient savoir et connaître la naissance du Messie. De fait, les grands prêtres et les scribes répondent à la question. Ils savent parfaitement que le Messie doit naître à Bethléem. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, les grands prêtres et les scribes, pas plus qu'Hérode, ne font la route alors qu'on est à une heure à pied de Jérusalem à Bethléem, une heure à pied à peine. Ils ne font pas le déplacement. Ils pourraient être intéressés par la recherche des mages. Ils pourraient discuter pour savoir comment et quand ils ont découvert cet astre. Ils pourraient, si réellement ils attendaient le Messie, courir avec eux pour découvrir celui qu'ils attendaient. En réalité, ils connaissent l'Écriture, sont des spécialistes de l'Écriture, mais ils n'attendent pas. Ils n'attendent rien ni personne. Combien de chrétiens aujourd'hui qui savent le catéchisme, qui savent même parfois la théologie, mais qui en réalité ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne la cherchent pas, ils ne l'attendent pas, ils ne sont pas prêts à s'en remettre à lui. Combien de chrétiens, dont nous sommes parfois, qui en réalité n'ont pas de place pour Dieu dans leur vie. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie à Bethléem. Il est allé naître dans une étable, une maison pauvre. Seuls les pauvres découvriront le Seigneur. Les pauvres matériellement, mais surtout les pauvres de cœur. C'est la première des béatitudes. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Est-ce que je suis assez pauvre pour reconnaître celui qui vient au milieu de nous, celui qui se tient au milieu de nous? Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, disait saint Paul. Il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'esprit. Voilà la clé, dans l'esprit. Est-ce qu'il y a dans ma vie, est-ce qu'il y a dans ma prière, est-ce qu'il y a dans ma réflexion, ma recherche, la place pour l'Esprit-Saint? Très étonnant dans les récits de Noël que nous avons parcourus tous ces jours-ci, très étonnant comme on voit nettement ceux qui se laissent porter par l'Esprit-Saint, ceux qui se laissent guider par l'Esprit-Saint. Comment Siméon a-t-il fait pour être pile à l'heure de la venue de Marie et de Joseph au temple quand il venait présenter l'enfant Jésus? Comment Anne, la prophétesse, est-elle venue pile au moment où Marie et Joseph venaient faire ces rites de la présentation? Comment ont-ils fait l'un et l'autre pour reconnaître l'enfant Dieu et pour chanter ses louanges? Comment Élisabeth a-t-elle deviné que Marie était la mère du Sauveur? Comment m'est-il donné la joie de voir la mère de mon Sauveur venir jusqu'à moi? Chaque fois, c'est l'Esprit-Saint qui le leur révèle. Chaque fois, c'est l'Esprit-Saint qui, au-dedans, a révélé le vrai Dieu. Est-ce qu'il y a de la place dans mon cœur? Est-ce qu'il y a de la place au fond de moi pour l'Esprit-Saint? Pour que l'Esprit-Saint m'indique ce que je cherche sans pouvoir le découvrir moi-même. Pour que l'Esprit-Saint puisse avoir de la place en moi, il faut que mon cœur soit vide de moi-même. Heureux les pauvres de cœur. C'est l'un ou l'autre, ou bien je suis riche de moi-même, ou bien je suis pauvre de moi-même et je cherche Dieu. Alors je découvrirai sous la force de l'Esprit-Saint. Les mages on leur réponse, ils refont la route. Et de fait, l'étoile leur apparaît de nouveau. L'étoile s'était éteinte à leurs yeux parce qu'ils devaient chercher dans l'Écriture. Ils devaient interroger ceux qui savent, ceux qui doivent savoir. Mais ceux qui savent sont devenus des sachants, comme on dit aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts à bouger. Les mages, eux, refont la route et vont jusqu'à cette maison au-dessus de laquelle l'étoile s'est arrêtée. Et là, le comble du comble, ils découvrent un enfant pauvre couché dans une mangeoire, avec une mère pauvre, toute jeune fille, et tombant à ses pieds, ils se prosternent. Ils s'en remettent à celui qu'ils découvrent. Quel mystère! Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Les mages ont découvert celui qu'ils cherchaient. On aurait pu imaginer qu'ils attendaient un roi dans un palais ou au moins quelque chose qui ressemblait à quelque chose d'un peu riche. Ils se prosternent devant un enfant tout simple, pauvre dans une maison pauvre. Ils se prosternent et ils découvrent leur présent pour les lui offrir, l'or, parce qu'ils ont conscience de s'adresser à un roi, la myrrhe, parce qu'ils ont conscience de s'adresser à un homme mortel, la myrrhe, c'est le parfum pour embaumer les morts, et l'encens, l'encens réservé à Dieu. Ils ont conscience, sans pouvoir faire des conférences là-dessus, sans avoir fait de catéchisme, ils ont conscience parce qu'ils ont entendu l'Esprit Saint en eux leur révéler que cet homme, en réalité, cet enfant, était divin, était Dieu. Ils se prosternent et nécessairement, indépendamment même de la question d'Hérode, ils retournent par un autre chemin. Parce que quand on a découvert le Christ, quand on a découvert Dieu, on ne peut pas retourner de la même manière. On est changé, la vie est bouleversée. On ne peut pas reprendre la même vie. Les païens qui découvrent Dieu, les païens qui découvrent le Christ, changent de vie. De fait, ils découvrent que la vie qu'ils menaient avant de connaître le Seigneur n'est plus possible. L'amour a des exigences que je ne peux découvrir que quand je commence à aimer, que quand je commence à découvrir combien je suis aimé. La découverte du péché, disait saint Jean-Paul II, est contemporaine de la découverte de la miséricorde. En découvrant la miséricorde, je découvre davantage mon péché. Et plus je découvre mon péché et que je l'avoue, plus je découvre Dieu et sa miséricorde. Puissions-nous aujourd'hui être comme les mages, en route sans cesse, en recherche sans cesse. Que jamais nous puissions nous arrêter en disant « Maintenant je sais, maintenant je suis en règle, maintenant j'ai été à la messe dimanche et ça suffit. La recherche me guide. » La recherche me conduit, je ne trouverai jamais tant que je ne le verrai face à face. Mon bien-aimé est à moi, disait la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Puissions-nous dans ce temps de Noël nous reprendre, reprendre notre vie, la vie ordinaire, le temps ordinaire, mais d'une façon désormais extraordinaire, parce que nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons touché de nos mains, disait saint Jean dans son épître. Et nous vous l'annonçons maintenant. Nous l'annonçons à tous les peuples, nous l'annonçons à tous ceux qui veulent le découvrir, nous l'annonçons à tous ceux qui se posent cette question sur le monde et sur la vie. Notre vie qui a touché le Verbe, notre vie est bouleversée. Laissons-nous bouleverser. Et comme disait le Saint-Père, en insistant lourdement depuis quelque temps, adorons-le. Notre monde a perdu, même notre Église a trop souvent perdu le sens de l'adoration. Il faudrait, comme disait saint Jean-Paul II autrefois, que nous soyons des spécialistes de l'adoration, des professionnels de l'adoration. Et là, objectivement, posons-nous la question devant Dieu, en vérité. Est-ce que je passe un peu de temps de ma vie à adorer le Seigneur ? Est-ce que ma recherche est seulement intellectuelle ou est-ce qu'elle est réellement un élan de ma vie, un élan de mon cœur, un élan de tout mon être ? Oui, prosternons-nous et adorons-le puisqu'il vient aujourd'hui comme hier dans l'Eucharistie. Il vient à ma rencontre. Amen.